Vous avez eu de bien beaux sujets pour vous mettre en appétit aujourd'hui. Je vois la prédestination de Marie, très sainte Trinité, Dieu, les perfections divines. Ah, là, ça se corsait un peu le péché. Bon. Donc, ce soir, nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez entendu pendant le repas, Monseigneur, insister sur l'importance de la connaissance de l'amour et du service de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est pas trop d'une vie pour nous plonger dans notre Seigneur. Notre Seigneur, oui, c'est l'infini, il est Dieu. Toutes les belles choses que vous avez entendues, voyez-vous, sur les perfections divines, l'éternité de Dieu, sa sagesse, sa puissance infinie, sa bonté, il est celui qui est, qui n'a jamais commencé, qui ne finira jamais. Eh bien, notre Seigneur, en tant que Dieu, eh bien, il a toutes ses perfections. Et certainement, si nous étions plus conscients de cela, nous aurions une foi beaucoup plus vive. On a reproché, certains s'en sont félicités, d'autres ont reproché, dans l'histoire, à Saint François, à certains aussi mystiques du XIIe siècle, XIe siècle, d'avoir introduit la dévotion à la sainte humanité de notre Seigneur. Et c'est vrai qu'il peut y avoir, eh bien, une tendance à tellement insister sur l'humanité, notre Seigneur, qu'on ne voit plus, eh bien, qu'il est Dieu. Et même la merveille, c'est qu'il est un Dieu fait homme. Alors, il faut bien que notre foi soit appuyée, voyez-vous, sur cette vérité qui fait contraste pour notre intelligence humaine. Il est Dieu, il est homme. Il est homme, il est Dieu. Il y a de très beaux sermons de Saint Léon à l'occasion de Noël, où il montre que pour un Dieu éternel qui se fait homme dans le temps, un Dieu qui est infini, qui habite un corps humain, qui assume un corps humain, il y a pour l'intelligence quelque chose de très très déroutant. Monseigneur disait ce soir, un scandale, un mystère. Et bon Dieu eh bien, a estimé que les hommes, en leur donnant la foi, étaient dignes de connaître ce mystère et qu'il allait les rendre dignes de connaître ce mystère. Alors, il faut que vous profitiez de la retraite, chère retraitante, pour avoir une religion personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, je vous raconterai une petite histoire du Padre Pio qui, un jour, donc, rencontre un diacre et lui demande « Où en êtes-vous de votre vie spirituelle ?» Oui, une expression un peu évasive. Et le Padre Pio dit « Ah, è vero, pas assez personnel !» Est-ce que notre vie avec Dieu, notre vie avec Jésus-Christ, est assez personnelle? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire subjective, émotive, mais est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est pour vous une personne? Ou est-ce que vous vivez avec lui comme une momie, une statue carton-pâte, une image dans votre salon, une belle statue du Sacré-Cœur? Oui, mais l'ennui, c'est qu'elle n'est pas vivante. Elle nous représente, notre Seigneur, et parfois par son fort belle, heureusement. Mais est-ce que notre Seigneur est vraiment quelqu'un pour vous de vivant? Vivant. D'éternellement vivant, ressuscité, qui vous voit, qui vous connaît chacun d'entre vous. Voilà. Eh bien, il faut que vous expérimentiez cela pendant la retraite. Et l'instruction de ce soir est là pour cela, pour vous aider, comme toutes les instructions, bien sûr, pour vous aider à avoir un contact personnel de foi, d'amour avec notre Seigneur. Avec juste ce qu'il faut de sensible, mais pas trop quand même. Parce que notre vie chrétienne est d'abord une vie de foi, qui se passe dans l'invisible. Alors il faut éveiller nos yeux spirituels, éveiller notre âme, ouvrir notre âme, on vous l'a dit sans doute, et ça veut dire quand on ouvre là, il faut fermer des trappes, des fenêtres un peu partout. Voilà. Pour être ouvert sur le haut, il faut fermer ce qu'il y a en bas. On ne descend pas à la cave, on monte au premier, au deuxième étage et plus haut si on le peut. pour avoir une belle perspective, un bel horizon. Cet horizon, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et nous allons, eh bien, aller au premier instant de l'incarnation. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelque chose d'extraordinaire, qui était attendu depuis des siècles. Depuis des siècles, c'était attendu. On n'a jamais vu un homme qui soit autant préfiguré dans les Saintes Écritures que notre Seigneur. Pour aucun homme, il y a eu ça. Personne. Autant de prophéties. Nous sommes impardonnables si nous ne croyons pas que Jésus, en Jésus-Christ, avec toutes les preuves qu'on a dans l'Ancien Testament. Il était figuré, préfiguré, annoncé, figuré dans les prophètes, par les paroles. Des choses magnifiques qu'on nous rappelle souvent dans la liturgie au moment de l'Avent. Je retrouve le passage. Prophétie de notre Seigneur, annoncée. Déjà connu et aimé avant de naître. Pas beaucoup d'hommes dans ce cas-là. Même c'est un cas unique. On ne dit pas ça pour Napoléon ou Louis XV ou je ne sais pas qui. Bon. Il y a dans l'histoire du monde un personnage, un seul, qui a fait parler de lui avant de naître, qui était déjà connu et attendu des milliers d'années avant d'apparaître sur la terre. Cet être, c'est Jésus-Christ. Dès même quand la prophétie de la Genèse, sa descendance t'écrasera la tête. La descendance, ça désigne d'abord Jésus-Christ. Jésus-Christ, la femme, bien sûr, et sa descendance, c'est Jésus-Christ et son Église. Que de circonstances. Jésus était né à Bethléem, au temps du roi Hérode. Voici que des mages d'Orient arrivent. Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et des païens. Et nous sommes venus l'adorer. Le roi Hérode est tout troublé, tout Jérusalem avec lui. Il assemble tous les chefs de la religion juive et les gens instruits dans les choses religieuses. Il leur demande, où doit naître le Christ ? Ils lui disent, à Bethléem de Judée. Car voici ce qui a été écrit par le prophète Michée. Et toi, Bethléem, tu n'es pas la plus petite parmi les villes de Judée, car de toi sortira un chef qui dirigera Israël, mon peuple. Ce n'était pas une vague impression, vous voyez, ils avaient quand même... Et même on a le portrait dans Isaïe, chapitre 49, 51, 53, 54, le portrait des souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ, trait pour trait. On a appelé ça la passion selon l'Ancien Testament. Merveilleuse preuve. Pourquoi les Juifs, il ne faut pas trop leur parler de ça. Ils s'arrangent pour que ce soit apocryphe ou pour donner des interprétations allégoriques. Ben, ce n'est pas du tout allégorique. Le psaume du serviteur souffrant, c'est une preuve de l'Écriture qui est très puissante. Que savait-on à part cela sur notre Seigneur avant sa naissance ? Eh bien donc, dès les Genèse, je vous ai dit, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et la sienne. Celle-ci te brisera la tête. » Lorsqu'il y a Abraham ensuite, Dieu dit à Abraham, « Je multiplierai tes descendants comme les étoiles du ciel. » Et on dira d'ailleurs, Abraham, père dans la foi, est aussi une figure de notre Seigneur. Les pères de l'Église ont vu dans tous les grands personnages de l'Ancien Testament la préfiguration de Jésus-Christ. Isaac et Jacob, fils et petits-fils d'Abraham, reçoivent les mêmes promesses sur la descendance. « Toutes les nations seront bénies en toi. » On attend bien des siècles avant que naisse le Christ ou le Messie. Et lentement, ce peuple se continue à travers toutes sortes d'événements heureux ou malheureux. Mais il est le peuple choisi. Et Dieu va envoyer des prophètes. Et voici ce que disent les prophètes. Par exemple, Daniel prédit que le Christ sera mis à mort après 70 semaines d'années, c'est-à-dire environ 490 ans, et ça correspondait au temps où notre Seigneur est né. Michée, je vous l'ai dit, annonçait Bethléem, le lieu. Voici les paroles d'Isaïe précises pour eux. Voici qu'une vierge enfantera un fils. Une vierge. Isaïe 7, verset 14. Souvent, si vous voulez savoir si une Bible vaut quelque chose, vous pouvez la regarder à Isaïe. Souvent, ils ne vont pas mettre vierge, ils vont mettre jeune fille, les Bibles modernes, avec une petite note en disant « Oui, mais en fait, peut-être cette jeune fille, c'est plutôt une vierge. » Bon, ça les écorche de mettre vierge, et pourtant, c'est tout à fait traditionnel. Voici votre Dieu, dans Isaïe, il viendra lui-même, il vous sauvera. Alors les yeux des aveugles verront, et les oreilles des sourds seront ouvertes, et le boiteux bondira. On a ça dans l'Évangile, miracle de notre Seigneur. Et la langue du muet sera déliée. Plus frappante encore, les prophéties qui se rapportent aux souffrances. dans le psaume 21 de David. Et on pourrait tirer beaucoup de choses aussi du prophète Jérémie, de Ézéchiel et des autres prophètes. On s'attendait donc à le voir bientôt lorsqu'il serait né. Même des païens se disaient « quelque chose va arriver ». Voilà. Quelque chose va arriver, les plus grands païens, même on dit Platon probablement. Et puis surtout, le précurseur, Saint Jean-Baptiste. Voilà. Celui-ci est plus qu'un prophète. En vérité, je vous le dis, parmi tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y en a pas de plus grand que lui. Quand Jésus donc parle de fait l'éloge de Saint Jean-Baptiste. Alors vous voyez, on attendait. Et la Sainte Vierge, lorsque l'ange Gabriel est venu, donc, le premier chapitre de Saint-Luc s'est rapporté, elle savait à qui... Elle méditait, pense-t-on, sur, d'après la tradition, sur ce Messie. Elle voulait même, d'après Saint-Alphonse, en être la servante. Alors, qu'est-ce qui se passe au moment de l'incarnation, quand la Sainte Vierge Marie eut dit oui ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passa ? Plaçons-nous à ce moment. Eh bien, la deuxième personne de la très sainte Trinité, qu'on appelle le Fils de Dieu, le propre Fils de Dieu, qui est tout égal au Père, qu'on appelle encore le Verbe. Bon, c'est pas le verbe de la grammaire, hein ? C'est le verbe, la pensée de Dieu, le verbum. Au Moyen-Âge, le verbum cordis, le verbum mentis, ça désigne l'idée, la pensée. Mais là, c'est une plénitude de pensée. Et qui nous expliquera qu'ensuite le Père ait pu dire en lui « Je mets toutes mes complaisances ». Et d'abord une complaisance de connaissance. Et c'est aussi, on verra, la sagesse. Les trois noms de notre Seigneur, c'est Fils, c'est le plus beau, le propre Fils de Dieu, éternel, tout orienté vers le Père. Verbe, toute la pensée du Père, et sagesse, il est sagesse de Dieu. Saint Paul ajoutera « Il est sagesse, il est rédemption ». Les justifications. Voilà. Le Verbe s'unit à une humanité, un corps tiré du chaste sein de la Vierge, de la plus pure des Vierges. Et Dieu crée à ce moment-là son âme. Donc il assume, disent les théologiens, le Verbe, Dieu, prend du plus pur sein de la Sainte Vierge un corps et une âme. Désormais, ce corps et cette âme sont le corps et l'âme d'un Dieu, personnellement, union dans la nature. Un être qui a à la fois la nature divine, la nature... On n'a jamais vu ça et on ne le verra plus jamais. C'est la plus belle œuvre de Dieu, la plus mystérieuse, la plus puissante. L'incarnation. Vérité éminemment catholique. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Une opération spéciale, une œuvre spéciale du Saint-Esprit. Car toute la Trinité agit dans l'incarnation. Cette humanité, le Verbe l'a tellement envahi qu'il lui a donné son « moi divin ». Quand Jésus-Christ dit « moi », c'est Dieu qui parle. Et ce « moi », il n'y a pas de « moi » humain. Tout ce qui est la seule chose qu'il y a d'humain en notre Seigneur, c'est l'union de son corps et de son âme. Il n'y a pas, de « je » humain, de « moi » humain. Le « moi », c'est la personne divine. C'est pour ça que quand on fait la théologie, c'est un peu délicat d'expliquer un peu la personnalité de notre Seigneur. Il n'a qu'une personnalité divine, il y a deux natures. Cette humanité l'a tellement envahie, donc elle a un nom sacré, que le cantique dira « Ton nom est comme une huile qui coule. » Et tous les actes de ce corps et de cette âme seront les actes de Dieu. On dira avec la théologie théandrique. Bon, c'est un peu compliqué, théos. Tous les actes sont attribués à la personne divine. Qu'est-ce qui va se passer ? Dieu déverse dans l'âme de Jésus toute la plénitude de grâce sanctifiante. C'est-à-dire toute la vie divine créée telle qu'elle peut exister. Pas la vie seulement, la vie divine qu'il a toute éternité, ça il n'a pas besoin, il l'a déjà. Mais la vie divine dans cette âme, pour qu'elle ait la plénitude de vie, qu'elle reçoive pleinement la vie divine du Père, de l'Esprit-Saint, voilà, en tant qu'homme. Dieu déverse dans l'âme de Jésus toute la plénitude de grâce sanctifiante qui convient à une âme aussi étroitement unie au Verbe. Il met dans sa volonté... un amour pour le Père, un amour pour les hommes, qui fait que notre Seigneur va être divinement épris de notre fin humaine, du but de notre vie humaine. On a dû vous le répéter plusieurs fois aujourd'hui, encore ce soir. Pourquoi sommes-nous sur terre ? Qu'est-ce qu'on fait ici-bas ? D'où est-ce qu'on vient ? Où est-ce qu'on va ? Qu'est-ce qu'on est ? Nous venons de Dieu, nous retournons à Dieu, et nous devons être de Dieu. Eh bien, en Jésus-Christ, cela se réalise éminemment. Il est de Dieu toute éternité. Il est de Dieu dans le temps de l'incarnation. Et il est de Dieu surtout pour Dieu, pour son Père. Et il est divinement épris de la fin humaine des hommes, de l'idéal que tout homme doit avoir. Il est divinement épris. Qu'est-ce que c'est que la fin des hommes? On vous dira, catéchisme, connaître, aimer, servir Dieu. Très bien. Et comment un Dieu qu'on n'a pas vu, qu'on ne sait pas, qui est tout puissant, eh bien, Dieu va devenir vision. Tu ne sais pas comment il faut honorer Dieu? Eh bien, regarde Jésus-Christ. Tu vas voir comment un être humain doit honorer son Dieu, doit honorer divinement et humainement son Dieu. Jésus-Christ. Voilà. Il fait le pont, pontifex, Sainte Catherine de Sienne, elle aime beau cette expression, le pont. Il rassemble et la création, il est à la rencontre du créé, de l'incréé, puisqu'il est éternel, et du créé. Oh, quelle merveille! Il est le résumé, nous disent nos saints penseurs franciscains et maîtres franciscains, le résumé de toute la création et le milieu de la divinité, le médium, dit saint Bonaventure. Il est entre le Père, l'Esprit Saint, il est entre l'homme et le Père. Il va nous apprendre à connaître Dieu comme Dieu mérite d'être connu, à aimer Dieu comme Dieu mérite d'être aimé, à servir Dieu, car il sera le religieux du Père, comme Dieu mérite d'être servi, et imité autant que l'âme humaine peut imiter son Créateur. Voilà ce qui se fait en Jésus-Christ. Et voyez-vous, lorsque nous parlons de la fin humaine, il faudrait dire deux choses, chers amis. Nous n'y pensons pas assez, et il faut y aller plus en profondeur. Oui, je suis fait pour connaître, pour aimer, pour servir Dieu. Très bien. Je suis fait pour glorifier Dieu. Peut-être vous l'a-t-on dit dans les perfections divines. Ces perfections qui sont en Dieu doivent rayonner dans les êtres humains. Il faut que chacun de nous recevions quelque chose de la sagesse, de la bonté, de la miséricorde, de la puissance, de l'amour de Dieu, et nous puissions le rayonner. Être chrétien, c'est rayonner Dieu comme le Christ l'a rayonné. Voilà. Et alors Jésus-Christ, eh bien, sa première chose, c'est de glorifier le Père. Si vous lisez l'Évangile, c'est magnifique devant notre Seigneur. Son réflexe, c'est toujours le Père. Ah, tout m'a été donné par le Père, tout vient du Père. Tout est au Père, tu Père, tu m'exauces toujours. Religion vivante. Alors lui, il avait une relation personnelle. Oui, éternel, mon Père, oui. Relation personnelle, oui. Est-ce que nous, c'était sa vie, sa respiration, sa nourriture, la volonté de son Père. Sa respiration, la respiration de son âme. Il respirait en Dieu, à tel point qu'il y a une très belle expression chez saint Thomas, au détour d'une question, là, dans la première partie de la somme. Ah, vous savez ce beau nom qu'il donne à Jésus-Christ. Écoutez bien. Ça va vous toucher, vous les dames, surtout. Verbum, verbe, je dis, pensée, spirans, donc qui respire, qui exhale, spirans, quoi, écoutez bien, amorem, un verbe, une pensée, une intelligence éternelle qui respire l'amour. Le bon Dieu, Jésus-Christ, il respire l'amour. Alors on s'étonne après la dévotion au Sacré-Cœur. Ah ben, non, il n'y a pas à s'étonner, c'est normal. Il est tout amour pour son Père, il est tout amour pour les hommes. Et il a ça dans le cœur depuis le premier instant de l'incarnation. Ah, c'est beau, n'est-ce pas? Bon Dieu peut que nous donner des bonnes choses, des belles choses à voir. Alors, il faut ouvrir notre âme, ouvrir nos yeux, ouvrir notre cœur. Il est épris de la gloire de Dieu et épris que l'homme possède son Dieu et soit sauvé du péché. Il y a deux choses dans notre fin. Glorifier Dieu et posséder Dieu, jouir de Dieu. Et l'une mène à l'autre. La jouissance honnête de Dieu nous mène à vouloir glorifier Dieu. Mais c'est encore mieux de vouloir glorifier Dieu parce qu'en glorifiant, nous le possédons. Il y a ces deux choses dans la fin. Eh bien, en Jésus-Christ, on les voit. Et il veut nous les donner. Il veut nous donner ce désir de glorifier le bon Dieu. Notre vie ne soit pas une vie terre à terre, là, enfoncée. Une vie qui jaillisse vers le bon Dieu. Voilà. On voit ça au printemps. Les fleurs. Petits animaux, etc. Ah, tout ça, ça fuit vers le ciel. Voilà nos vies, doivent être comme ça. Bon Dieu veut ça. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et que cette vie, elle est en abondance. Je suis venu allumer le feu sur la terre.
Non, il n'y a pas l'impression que le feu est allumé. Plutôt aplati.
Bon, alors, un cœur, une volonté, une intelligence. Ah, il voit Dieu, tout le temps, à tout instant. Les trois sciences, on dit, en notre Seigneur. La science divine, en tant que Dieu, bon, ça, pas la peine. Mais les deux autres. Il y a la science des anges. Et, alors là, c'est un peu fort. Il a une science aussi expérimentale. Mais il sait tout, pourtant. Non, il ne sait pas tout. Parce que son corps, il n'a pas expérimenté telle et telle chose. Donc, il faut qu'il les expérimente avec ses sens. Hein, voir telle chose. Voilà. La beauté des lys, etc. Il ne l'avait pas vu avec des yeux humains. Il les connaissait éternellement, mais il ne les avait pas vus avec des yeux humains. Il a créé des yeux pour voir ces beaux lys qu'avait fait son père. Son père qui donne des beaux vêtements à la terre. Il faut en profiter l'été. Hein. Promenez-vous avec Jésus dans le jardin. Mon Dieu, c'est vous qui avez fait ça. Oh, bah alors, il est beau le jardin de mon père. Bien le Saint-Sacrement. Ah, Jésus, il est là. Hein, tout près. Il est tout près à portée de main, là, à quelques mètres. Alors, visitez-le beaucoup pendant la retraite. C'est là que vous allez apprendre à connaître. C'est quelqu'un de vivant, le bon Dieu. Pas un endormi, là. Bon, oui. Il a fait la création, puis après, il a mis la clé sous le paillasson. Que les hommes se débrouillent. Bêtasse, va. Pas du tout. Il veut nous faire entrer dans son intérieur, le bon Dieu. Ah. Alors, continuons. On n'a pas beaucoup de temps. Bon. Il habite en Marie. Et même le cœur de sa mère à côté du sien. Pourtant, le cœur de Marie, c'est un brasier. Bah, c'est rien à côté du cœur de Jésus. C'est un cœur de l'homme-Dieu. Il met dans son intelligence plus que la foi. Il met un degré de gloire en équivalence de la grâce sanctifiante et de la charité. Jésus a la vision intuitive, tout le temps. Il voit Dieu. Et il voit en Dieu. Et qu'est-ce qu'il voit Jésus au premier instant de l'incarnation? Le Père Certilange a écrit ce que Dieu voyait, Jésus voyait du haut de sa croix. Mais dès le premier instant de l'incarnation, qu'est-ce qu'il voit, chers amis? Ah, il voit son Père, oui. Et puis, tout le passé, tout le présent. Et il voit vous. Là, vous, en ce moment, à la retraite, là, essayant d'émerger de votre vie quotidienne pour, bon, tirer un peu la tête, là. Hein? Bon. Il vous a connu de toute éternité. Il vous a aimé de toute éternité. Il vous voit, il vous connaît, il vous pénètre. Attention, hein, pas seulement le regard du Dieu, attends quelle bêtise tu vas faire là au coin de la porte pour que je te donne des coups. C'est pas ça du tout. La bienveillance d'un regard paternel. C'est plus facile à comprendre quand on a eu de bons parents, c'est vrai. Dans le regard de nos bons parents, eh bien c'est vrai que nous pouvons voir les parents, normalement, devraient être le... Vous voyez, la première preuve vivante pour un enfant de Dieu, ce sont ses parents. D'où les crimes de ceux qui détruisent la famille. Ils enlèvent une preuve vivante de Dieu. Criminel. Donc le bon Dieu nous a vus. Il nous connaît chacun de nous. Il connaît tout le bien, tout le mal de notre vie. Ah, il l'a vu. Mais nous sommes libres, hein, attention. Ah bah, il a connu, donc on n'est plus libre. Si, si. Il a connu aussi tes actes en tant que libre. Ah. Alors voici sa mission. Attendez, c'est pas fini. Voici ce que lui... Tu n'as plus voulu des victimes et des holocaustes. Vous savez, tous ces sacrifices de l'Ancien Testament, là, tout ce sang. Un certain jour, c'était la boucherie hein, au temple de Jérusalem. Tu n'as plus voulu des holocaustes et des sacrifices. Et j'ai dit, ô Père, me voici pour accomplir tes volontés. Alors, quelle est cette volonté du Père? Eh bien, mon fils, écoutons ce dialogue secret qu'a le Père avec le Fils. C'est très beau, d'ailleurs. Il y a Saint Bernard, fait un très beau texte là-dessus. Dialogue de la miséricorde et de la justice. Le dialogue qui est en Dieu, c'est très beau. Mon fils, cette incarnation, cette union de ton humanité à ta personne, cette plénitude de grâce qui t'est départie, ce brasier d'amour qui brûle ton cœur pour ma gloire et pour le salut de tes frères, tout cela te révèle une triple mission. Tu auras trois choses à faire, mon fils. Et le fils, bien sûr, a le même projet que son père. C'est une façon humaine. D'abord, nous révéler Dieu, nous montrer Dieu. Ensuite, nous racheter la rédemption. Et puis, troisième, à travers l'Église, nous parlons plutôt vers le milieu de la retraite, reconstruire, parce qu'il y a bien des choses cassées dans l'humanité. Alors, nous révéler Dieu. Ah, Père, le premier révélateur de Dieu, le premier introducteur de la Trinité, c'est Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous devons croire qu'a pu dire le Père de toute éternité? Ah, ces malheureux hommes sont dans un état lamentable. Leurs intelligences sont obscurcies par le péché, égarées par maintes erreurs. Mais je t'envoie, toi, qui es voix, vérité et vie. Voix pour qu'ils puissent mettre leurs pas là où il faut. Vérité pour qu'ils s'éloignent de leurs erreurs, de leurs illusions et de leurs mensonges. Et surtout, vie. Va leur donner notre vie intime. Dispose-les à recevoir notre vie intime. Va évangéliser ces pauvres. Dis-leur qu'ils ont un Père dans les cieux, un Père qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'ils se convertissent et qu'ils vivent, un Père qui voit dans le secret des cœurs, qui demande un culte en esprit et en vérité, un Père qui veut nous faire vivre de sa propre perfection de sagesse et d'amour, un Père qui les aime au point de leur donner quoi ? Son alter ego, un autre lui-même. Alors voyez comme nous sommes loin de ceux qui disent « Ouais, Dieu, ça a été un tortionnaire, laisser son fils sur la croix. » Bêtasse ! Le Père, par l'offrant de son fils, nous témoigne de son amour infini. Il s'est comme donné lui-même en nous donnant son fils sur la croix. Car il y a tout le don de la Trinité sur la croix, chers amis. Tout le don de la Trinité. C'est le Père qui se donne à nous à travers l'humanité sainte de son fils. C'est le Saint-Esprit qui nous manifeste l'amour incroyable que le bon Dieu a pour nous. Relève donc leur espérance, ils sont malheureux, leurs cœurs sont fascinés par les plaisirs de la terre. Va leur montrer les vraies béatitudes, la béatitude de l'âme détachée, la béatitude de l'âme qui est douce et pacifique, la béatitude de l'âme miséricordieuse, la béatitude de ceux qui ont soif de justice, inspirée par Dieu. Enseigne-leur surtout la prière confiante et filiale. Apprends-leur à dire « Notre Père qui êtes aux cieux ». Apprends-leur à rechercher d'abord et avant tout le règne de Dieu vivant pour leur... et puis une inébranlable confiance en ma providence. Voilà. Tout est dans mes mains, tout est en mon pouvoir. Mais surtout, apprends-leur, donne-leur la science de l'amour. Voilà. Va leur révéler les secrets de mon amour. Ces pauvres volontés humaines ont toujours le vertige des abîmes, des passions. Ah, les abîmes, abyssus. Des passions les plus honteuses, ils sont enlisés dans les biens terrestres. Va leur révéler l'amour qui est pur, qui est noble, qui est saint. Arme ton bras de la puissance du miracle. Donne à tes lèvres, à ta langue, un glaive aiguisé pour qu'il pénètre jusqu'au plus profond de leur âme. Autorité de ma parole, cœur plein de compassion, je te donnerai le pouvoir de toucher les cœurs. Fais-toi donc petit avec les petits, humble avec les humbles, ouvrier avec les ouvriers, tout à tous pour les gagner tous. Tu les aimeras, les petits-enfants, les malades, les pauvres, les pécheurs, surtout les pécheurs, car c'est spécialement pour eux que je t'envoie. Mais surtout, tu te donneras. Aussi, dès 30 ans, tu quitteras ta famille. Tous les hommes seront tes frères. Les renards auront des tanières, les oiseaux des nids, et toi, tu seras l'hôte et le prisonnier d'amour de l'humanité. Et tu seras, après ta mort, prisonnier d'amour au tabernacle. Tu donneras au peuple, par ta parole simple et populaire, tout entière, tu montreras comment on aime, par des actes, et aussi par tes paroles. Alors ça, c'est mission de vérité, lumière. Dans la vie chrétienne, il faut qu'il y ait de la lumière. Les chrétiens ne sont pas des abrutis. Il faut développer notre intelligence. La foi descend sur des êtres intelligents. Je ne dis pas intellectuels, attention. Ou intellectualiste. L'intelligence qui est faite pour le vrai. Si vous cassez l'intelligence, si vous dites que l'intelligence n'est pas faite pour ce qui est, elle n'est pas faite pour ce qui est vrai, vous empêchez la foi de descendre. C'est ce que font nos modernes et nos modernistes. On ne peut pas connaître le réel. Si, nous sommes faits pour le réel, pour l'être, pour la vie, pour ce qui est. Et c'est parce que nous sommes faits pour ce qui est que nous allons recevoir la parole et la manifestation et la révélation de celui qui est. Donc, avec votre foi, il faut développer votre intelligence. Non, pas forcément de lire dans le texte saint Thomas d'Aquin hein, ou la Bible en hébreu, c'est pas ça que je dis, non. Mais nourrissez votre intelligence, nourrissez, vos sens, réfléchissez à ce que vous voyez, à ce que vous entendez, pas seulement à la télé, hein, attention. Je parle la nature, regardez la nature, elle est pleine de leçons de Dieu. Elle nous rend intelligents, la nature, quand on la regarde, de l'intelligence du cœur. Mission de rédemption, la plus importante. Ils sont rebelles à la loi, ils ne veulent pas de la loi, ils n'ont pas compris que la loi, c'est d'abord d'aimer Dieu. Ce n'est pas seulement des prescriptions extérieures, les 613 ou 600, je ne sais pas combien, prescriptions de la loi. Alors ils se forgent eux-mêmes des chaînes de leur esclavage, des chaînes vengeresses qu'ils ne peuvent briser, chaînes de leur péché. Ils sont des captifs, libère-les, je t'établis leur médiateur. Tu m'offriras pour eux un sacrifice de louange et d'expiation. Je ne veux plus, j'ai la nausée du sang des animaux. Je veux le sang de tes veines et de ton cœur pour eux, que tu verseras pour eux, que nous Il faut vénérer hein, pendant le mois de juillet le sang de notre Seigneur. Hein, c'est important, ça. Et c'est beau. D'abord, le rouge, c'est frappant. Ça frappe un peu. Ils ont besoin d'être frappés. Et puis, ça coule. Ça coule. Ça veut dire qu'il y a une communication. Il y a un échange. C'est vivant. Et ce sang, il est frais pour rafraîchir notre âme. Et c'est le sang d'un Dieu. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le corps d'un Dieu, l'âme d'un Dieu, toutes les parties d'un Dieu, les yeux d'un Dieu, les oreilles d'un Dieu, la langue d'un Dieu. Ah, le sang d'un Dieu. Je te donne 33 ans. Lorsque ta vie aura atteint le sommet de sa beauté, de sa bonté, de sa force, tu me la donneras à l'occasion des pauvres péchés des hommes qui te persécuteront, car il n'était pas digne que tu restes plus longtemps sur la terre. Et pourtant, la gloire la plus, tu étais proche de recevoir la gloire la plus éclatante, les honneurs les plus divins. Hein, au jour des rameaux, tout le monde était prêt à en faire le roi. Non, je ne veux pas. Il n'est pas venu pour ça. Les plus vastes conquêtes n'attendaient qu'un geste de toi pour t'élever un trône incomparable. Non, je ferai retomber sur toi toute l'iniquité des hommes, du passé, présent, futur. Le châtiment qui leur est dû, tu le subiras. Tu porteras sur ton cœur broyé leur misère, dans ton âme accablée, le poids de leur péché. Condamné à mort par les chefs de ta nation, abandonné, trahi, renié par tes apôtres, honni par un peuple en délire, roi de dérision. Mais à mes yeux, tu es un roi d'amour, ayant pour couronne un faisceau d'épines, comme pourpre ton propre sang, et pour trône ton gibet, ta croix. Homme de douleur, tu mourras cloué à l'ignominie de la croix, mais ton sacrifice sera la rédemption des hommes qui deviendront ta conquête. Ah, nous sommes le butin de Jésus-Christ. Faisons attention de ne pas faire voler nos âmes par Dédé, le démon qui se promène. Vous allez entendre accompli la circuit scurrent comme dévorette. Non, je suis à Jésus-Christ. Je suis le butin de Jésus-Christ. Je suis le trophée de Jésus-Christ. Je dois travailler à l'être ce trophée, un digne trophée. Dernière mission, nous essaierons là-dessus. On parlera dans d'autres instructions. Les hommes sont facilement divisés. Eh bien, tu les mettras dans une société humaine, une grande famille qui est l'Église. Ils sont facilement, les hommes, idolâtres et grossiers. Tu les mettras dans une Église sainte, une famille, un seul peuple, acquis au prix de ton sang, une vraie famille, un peuple saint, dont tu seras le chef sacré, et tu les feras ainsi participer, non seulement à ta royauté, acquise humainement, mais à ton sacerdoce, car tu es le prêtre et la victime. Alors on comprend la parole du Seigneur. Tu l'as dit, je suis roi, et je suis venu pour naître, et je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. La royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le point de combat le plus important actuellement. Les hommes sont souverainement malhonnêtes en n'acceptant pas le jour royal de notre Seigneur. Il a tous les titres pour être le parfait roi, tous les hommes et des sociétés. Il l'a acquis par son sang, par ses vertus, par son pouvoir, par son autorité, surtout par son amour, le don de lui-même. Nous sommes à lui par son amour, la puissance de l'amour. C'est ce qui vous est confié, chère dame, hein, la puissance de l'amour sur terre. Hein. Vous êtes puissante, hein. Attention, mettez vos amours où il faut. Si vos amours sont dressés vers Dieu et vers les choses nobles de la terre, vous sauvez l'humanité. Si vos amours sont les fleurs fanées, tournées vers la terre, alors les hommes deviennent rampants. Notre société est rampante. La foi, la frappe chrétienne est la foi en la vérité de ce témoignage du divin roi qui reçoit son témoignage à signer de son sceau que Dieu est véridique, nous dit saint Jean, chapitre 3. Le royaume du Christ est un royaume de croyants réunis dans une seule société d'amour qui commence ici-bas et s'achève dans le ciel. Voilà, on parlera de l'Église. Alors vous penserez un peu à ces choses-là. Elle est bientôt accomplie. Où est-ce que vous rencontrerez Jésus-Christ? Bien sûr, au tabernacle. Il ne faut pas oublier hein, que quand même, vous êtes les... On a dû vous le dire avec sur la Trinité, je suppose. Vous avez la Trinité à demeure. Hein, le bon Dieu est à demeure. Il est dans votre âme. Hein. Donc aussi la deuxième personne de la Trinité. La sainte humanité ne vient que pendant la communion eucharistique. Mais sa divinité est toujours en vous. Quand vous êtes en état de grâce, c'est le Père qui est en vous. Le Fils qui est en vous, le Saint-Esprit qui est dans vous. Il n'y a pas besoin d'aller chercher loin. Hein. Faut pas acheter un ticket de voyage là pour aller en Chine ou je sais pas quoi, ou en Australie. Hein. Non, non. Là. Là. Hein. Vous y penserez. Et vous n'êtes pas obligé forcément. Si vous pouvez, quand vous êtes à la chapelle, c'est très bien. Mais même dehors, hein, vous êtes des petites trinités ambulantes. Hein. Bon Dieu, vous le transportez avec vous, là. Le chrétien, c'est un petit Saint-Sacrement, une petite trinité ambulante. Vous penserez à ça, hein, que vous voyez la nature. Ah, la trinité fait ça, mais c'est bien plus beau ce qu'elle fait dans les cœurs humains qu'il aime. Un Dieu qui naît d'un Dieu en vue d'un Dieu. Oh, trois personnes, une seule nature. Un père qui engendre son fils. Il fait tout le temps ça. Oh, j'y pense jamais. Oh, quelle distraction. Non, non, moi, ce qui m'intéresse, c'est la télé, c'est les ordinateurs. Ah. Alors que, quoi, j'ai bien plus que toute la création, moi, et je m'intéresse à des rien du tout. Pff, qu'est-ce qu'on est bête, quand même. Pouf. Plus nous voyons la sagesse et la bonté de Dieu, plus on se sent bête, petit et mesquin. Faut s'étonner de ça, et faut pas se décourager. Voilà. Essayez donc d'avoir ce contact personnel avec Jésus-Christ, au tabernacle, dans la création, dans votre cœur. Priez les unes pour les autres. Priez les unes pour les autres. Quand vous faites quelque chose, quand vous priez pour quelqu'un, vous faites plaisir à Jésus-Christ. Vous faites fructifier la grâce de Jésus-Christ. Priez les unes pour les autres pendant cette retraite. Vous priez pour vos familles. Pour... Bon, attention, certaines, dès qu'elles commencent à prier pour d'autres, c'est les distractions qui partent. Bon, alors doucement, si c'est des prières trop inquiètes, d'abord, votre regard sur Dieu. Parce qu'après, il y a les associations d'impressions et d'idées. Et bon, on commence à Dieu, puis on se retrouve à la maison avec tous les soucis. Bon, pas ça. Dieu d'abord, Dieu premier servi. Hein? Donc, n'allez pas dans la distraction. Mais priez les unes pour les autres, c'est important. Jésus-Christ est au milieu de nous. Hein? Il veut que vous grandissiez dans l'amour pendant cette retraite, hein? Que vous ayez vraiment un regard de que la lumière pénètre en vous, hein? que les ténèbres s'écartent. Voilà. C'est plein de lumière, plein de chaleur, plein de vie. Voilà. Voilà. Demandons ça à la Sainte Vierge. En l'absence de Monsieur l'abbé Troidec, j'allais lui demander d'inverser presque l'instruction, parce qu'en principe, le combat spirituel, c'est un peu plus long, un peu plus détaillé, un peu plus technique. Et puis... ça n'a pas en général l'effet d'une infusion pour nous endormir. Bon, on va essayer quand même de s'en tirer sans vous obliger une agonie de Gethsémani cette nuit, quoi. Hein? Bon. Vous savez qu'au baptême, nous avons reçu une vie toute nouvelle, une vie toute surnaturelle, qui a effacé... le péché originel, trace du péché originel, le péché originel en ce qu'il est, comme le fait d'être détourné de Dieu. Hein, nous naissons à l'inverse du tournesol, là qui est tourné, vous le savez, nous naissons le dos tourné à Dieu. Mais il reste dans nos facultés ce qu'on appelle un deuxième aspect des choses, ce qu'on appelle le foyer de concupiscence, le foyer de convoitise. Et spécialement ce foyer qui est beaucoup atténué par le baptême, et encore plus qu'il le sera par la vie chrétienne, par les sacrements, par la confession, par la communion, par toute la vie chrétienne, la prière. Nous gardons ces quatre blessures et quatre tendances au mal. On résume en quatre, on pourrait le dire aussi en sept, il y a les péchés capitaux, j'en parlerai bien sûr. Mais nous avons quatre blessures. Et c'est très important de le savoir, parce que ces blessures, évidemment, eh bien, peuvent toujours se rouvrir. Et précisément, la vie vertueuse et le combat spirituel que nous allons voir un peu ce soir ont pour effet de diminuer, de stopper, ou d'empêcher en tout cas que ce foyer prenne des proportions qui empêchent la vie spirituelle en nous. Ces quatre blessures sont, dans notre intelligence, la blessure de l'ignorance et de l'erreur. La principale ignorance de l'homme sans la grâce, c'est de ne pas savoir d'où il est, où il va et ce qu'il est. Vous vous rendez compte, quand les gens ne sont pas chrétiens, vivent un peu n'importe comment, on dirait, ben, ils ne savent pas d'où ils sont, ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas ce qu'ils sont. Et justement, eh bien, notre vie chrétienne va nous aider, nous savons d'où nous sommes, où nous allons et ce que nous sommes. Mais nous avons toujours cette inclination à l'erreur et à l'ignorance, elle est toujours là, surtout en matière surnaturelle, en matière spirituelle. Nous avons dans la volonté la blessure de la malice. Malice. Et on voit ça, vous savez, pour les quatre blessures d'ailleurs, très tôt chez les enfants. Une espèce de la convoitise. Bon, on va voir, c'est plutôt la convoitise qu'on voit chez eux, mais aussi malice. Certaines malices. Même si c'est des petits-enfants baptisés. Il faudra une éducation pour empêcher ces blessures d'être quand même toujours là. Nous avons ensuite ce qu'on appelle deux appétits, deux tendances passionnelles grandes qu'on appelle, sans aucune note a priori péjorative, l'appétit irascible. Ça ne veut pas dire qu'on se met facilement en colère, c'est pas ça. Ça veut dire que c'est une passion qui nous permet d'atteindre des biens difficiles, qui demandent un effort. Bon, on doit aller quelque part, il y a une difficulté qui se présente, il y en a, il la passe facilement. Bon. Par exemple, il y a une difficulté dans l'action, vous voyez, il y en a, un bon appétit irascible, ils arrivent à passer par-dessus les difficultés. Dans cet appétit irascible, il y a blessure de faiblesse, faible. Et nous sommes faibles spécialement par rapport au bien spirituel. Et nous avons un appétit donc de convoitise, concupiscible, on dirait, concupiscentia, sans non plus, mais de ces blessés, convoitise excessive. Alors ça s'accompagne en plus, bien sûr, notre corps peut être soumis à des peines naturelles augmentées par le péché originel, c'est tellement fatigabilité, possibilité de maladie, mort, etc., les suites du péché originel. Et donc si nous ne faisons pas très attention, si nous n'avons pas une vie vertueuse, si nous ne prions pas surtout, si nous ne communions pas, si nous ne confessons pas, eh ben c'est cette vie-là, dans l'ignorance, dans la malice, qui a tendance à prendre le dessus. Et nous faire commettre des péchés, au fond nous faire vivre d'égoïsme et d'orgueil, on pourrait résumer comme ça. L'Église, depuis Saint Jean, a généralement plutôt résumé dans les trois blessures, je vous ai dit tout à l'heure, cette blessure de convoitise, donc par rapport au bien sensible, concupiscence, concupiscence des yeux, désir de la chair, de tous ordres, gourmandise, luxure, impureté, et puis orgueil de la vie, l'orgueil du pouvoir, l'orgueil du savoir, l'orgueil du vouloir, l'orgueil de la domination. Alors, il va falloir employer les armes que Dieu nous donne, qui sont les vertus morales. Demain, nous verrons plus spécialement les vertus théologales dans l'instruction, et puis les dons du Saint-Esprit, les vertus morales. Donc, essentiellement, notre vie doit se développer dans une justice par rapport à Dieu, par rapport à nos parents, par rapport à nos égaux, par rapport à nos inférieurs. Et nous avons un fort penchant à l'injustice. Plus ou moins fort, mais il y a un penchant. Nous devrions nous comporter selon la raison, la prudence. Mais comme il y a la blessure d'ignorance, souvent, on va prendre les moyens pour les fins ou les fins pour les moyens. Nous n'allons pas ordonner notre vie à la fin dernière surnaturelle. Prendre les bons moyens, regarder, avoir l'œil pur de l'intelligence pour voir les bons moyens en vue de la fin surnaturelle. De même, contre la convoitise, bien, la tempérance, nous aurons à tempérer les besoins de notre corps, mais aussi les besoins de notre âme. Dans la tempérance, spécialement la tempérance spirituelle, va entrer l'humilité. Elle va tempérer quoi ? La conscience et le sentiment légitime du moi qui aurait tendance à se mettre à la place de Dieu ou à la place des autres. Tempérance, humilité, va tempérer, la modérer, la tendance. Et puis la force, pour faire notre devoir d'État, on a besoin de force, nous le savons, à tel point que le Seigneur a voulu que nous ayons une vertu de force et un don de force. Vertu, c'est plutôt nous qui agissons. Le don, c'est plutôt lui, avec notre consentement. On verra que c'est ça qui caractérise en grande partie l'action des dons dans notre âme. Alors c'est un peu dans ce cadre, voyez-vous, que va se développer notre combat spirituel pour les vertus contre le vice, pour le bien contre le mal. dans ce qu'on appelle, de même que nous avons un organisme corporel, une tête, des bras, des jambes, etc., un torse, un cœur, des muscles, tout ce que vous voulez, nous avons aussi dans notre vie spirituelle un organisme surnaturel. L'âme a un organisme avec des instruments qui sont ces quatre vertus morales, justice, prudence, tempérance, force. En plus, il y a les trois vertus théologales dont nous parlons demain. Et puis en plus, le bon Dieu, à ses grandes bontés, nous donnait les dons du Saint-Esprit. On verra ça demain. Qui rendre plus facile, plus efficace, plus fort notre adhésion à Dieu et notre éloignement de ce qui peut éloigner de Dieu. Vous le savez qu'on définit le péché conversio ad creatura, c'est aversio a Deo. Eh bien, notre vie spirituelle, ça veut dire quoi? Conversion à Dieu et aversion, éloignement de ce qui peut nous éloigner de Dieu. Voilà. C'est ce qui vous explique qu'il y a toujours un combat. Et c'est parfois, surtout au moment des tentations, c'est le pied à pied. C'est-à-dire que si vous ne plantez pas la vertu, c'est le vice qui prend la place. Alors, on ne le sent pas toujours de façon aussi aiguë. Et on le sent d'autant moins de façon aiguë si on a été habitué très tôt à se vaincre. On voit par exemple la vie de Anne de Guigné, petite Anne de Guigné. Certains péchés ne commettaient pas, disent « Si je commence à céder à ces petits caprices à 10 ou 12 ans, mais qu'est-ce que je serai quand je serai vieille ?» Alors ça veut vous expliquer que peut-être si vous êtes des convertis ou si au moins vous êtes mis à avoir une vie spirituelle un peu sérieuse, plutôt pas forcément sur le tard, mais pas tout à fait au point de départ, dans le starting block, bah, vous avez déjà des habitudes qui sont là. Donc il y avait déjà le penchant, augmenté par des actes personnels, par une éducation, par un milieu, par un tas de choses, par des péchés personnels. Et puis donc, bah, le chien dent, il a bien poussé dans l'âme, quoi. Puis pour l'arracher, maintenant, la racine, elle est bien forte, quoi. Alors bon Dieu a prévu nous aider. Et c'est sûr qu'on peut voir, on voit à travers Sainte-Marie-Madeleine, demain que nous fêtons. Bon Dieu ne regarde pas tant le temps qu'on a passé dans le service de Dieu, c'est mieux d'être parti plus tôt et d'avoir été fidèle. Mais il regarde surtout l'amour, la conviction avec lequel nous essayons d'arracher nos vices, nos péchés qui sont toujours à repousser, là, bon, qui poussent en plus sur le tempérament, je vous ai dit. Si, à ce sujet, je signale, vous avez plusieurs en ont entendu parler, nous avons écouté au mois de mars, ça a beaucoup de fait bien à la communauté. Les quatre tempéraments là, de l'abbé Bruciani, c'est très bien, ça, c'est en CD, là. Donc, les quatre tempéraments, alors le sanguin, le colérique bilieux, le flegmatique, et puis j'en oublie un, le mélancolique. Bon. Eh bien, pour ces quatre tempéraments, il va y avoir quatre types de tentations, et dites-vous bien que le démon, qui est un des plus fins psychologues qui soit, il sait très bien par quel côté il va entrer. Le sanguin, il va du côté du bien concupiscible, hein, la jouissance, des yeux, des oreilles, du toucher, etc. Le mélancolique, t'es triste, encore plus triste. La tête dans un trou. Donc, quand tu vas faire du bien, il va t'envoyer de la mélancolie. Quand tu vas faire du mal, il va augmenter le mal. Donc, ces personnes-là, la surconfiance, le suroptimisme à pratiquer comme point de vie spirituel. Le colérique bulieux, j'enfonce les portes avant de savoir si elles sont ouvertes. J'ai beaucoup de zèle pour les autres, peut-être même d'être un zèle de chef, mais j'ai tendance à oublier que les autres, ils ont des pieds et ils marchent peut-être pas au même rythme que moi. Donc je leur marche sur les pieds, ou je les contrarie, ou je les dirige, ou je leur tords le cou, ou j'ai du mauvais zèle, comme parle ce soir Monseigneur. C'est beau ce zèle hein, de Monseigneur, voilà sainteté là, sainteté, capable de dire des choses aussi fortes pour la foi, aussi bonnes, aussi douces pour la charité. Bon, de toute façon. Et puis le flegmatique, ben, l'idéal, c'est pas la vie en chaise longue. Donc, il est attaqué du côté de la paresse. Vous voyez, ça pousse. Mais la vertu aussi va pousser là-dessus. Le sanguin a une disposition à la charité. Le colérique bullion a une facilité à prendre le commandement pour le bien commun. Et s'il purifie sa volonté, c'est une âme de chef. Ou au moins de petit chef, de tyranno, mais. Il va entraîner les autres. Il a le sens pratique, il sait ce qu'il faut faire, Bon, il prend pas toujours, il prend pas, des fois pas les quatre chemins. Bon. Le mélancolique, plus intérieur, plus profond, plus délicat, plus compatissant, pouvoir de consoler les autres, pouvoir de contempler Dieu, d'être réfléchi, profond. Le flegmatique aussi, d'ailleurs. Le flegmatique, c'est régulier, peut faire des choses très régulières, très ponctuelles, très bonnes, à condition qu'il agisse plutôt sous un colérique vertueux. Bon, enfin, un bilieux vertueux. Bon, vous voyez, bien savoir ces choses-là. Et pour ne pas être étonné, bah, que nous penchions un peu de ce... Alors bon, c'est sûr qu'on n'est pas... En général, c'est vrai, c'est rare les types qui sont tout à fait purs. Hein, rentrent dans la case, là, parfait. Non, des fois, un petit peu, on hésite même. Assez souvent, sur deux, trois tempéraments, c'est rare, on a dû... Mais sur deux, c'est possible, ça peut... Du reste, généralement, aujourd'hui, en la caractérologie, c'est 8 et plus, hein, les tempéraments. Peu importe. Bon, mais sachez-le, c'est intéressant, parce que ça permet de savoir comment Dieu nous sanctifie et comment le démon nous tente. Et en plus, ça nous apprend à vivre avec les autres types de tempéraments, ce qui est extrêmement utile pour la charité. Voilà. Le combat spirituel, là, j'aborde le livre lui-même, qu'on appelle le de Scupoli, dont vous avez deux, trois exemplaires, là j'ai vu, il prend les choses de très haut. Il nous indique d'abord qu'est-ce que c'est que la perfection. L'union à Dieu, l'union au prochain, selon Dieu, l'union à sa volonté. En fait, qu'il y a l'envahissement complet de la charité. Et il dit, le but pour ça, c'est d'éteindre toutes les passions contraires à cette charité, envers Dieu, envers le prochain. De telle façon que, il dit... C'est plus important de se mortifier de la moindre de ses passions que d'embrasser tous les jeûnes, toutes les veilles, toutes les pénitences extraordinaires qu'ont pu employer les saints. Il dit que c'est ça le plus important. Ce que le démon Seigneur demande de nous, c'est que nous employions tous nos efforts et mettons toutes nos applications à combattre nos passions sans en laisser une seule vivante de façon volontaire, sciemment et volontairement. Car sans ce combat intérieur, il ne compte pour rien les œuvres faites pour son service, si grandes et magnifiques qu'on puisse les supposer. Alors, éteindre les passions, ça ne veut pas dire tuer les mauvaises passions, parce que la passion de soi, elle n'est ni bonne ni mauvaise. La passion, elle doit être mise, c'est un pouvoir, vous voyez, irascible ou concupiscible, de même que nos facultés, mais elles doivent être mises au service du bien. Et si on a par exemple un fort irascible ou un fort concupiscible, ben, ça va aider notre vertu. Si on pratique la vertu, ça va aider notre, ça va intervenir dans notre vertu, comme le tempérament aussi. Alors il indique, en prenant les choses de très haut, donc d'abord la charité, que notre idéal de vie soit d'être rempli de l'amour du bon Dieu. Ensuite, il dit, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Donc une très vive conscience de la gratuité de la grâce. Dieu veut, Dieu peut, Dieu sait, il nous donne les moyens par la grâce, l'organisme spirituel, je vais parler, mais de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Et il faut souvent nous en souvenir. Car la grande tendance de l'homme, il dit, c'est de se confier dans ses propres forces. Bon, il y en a, ils sont trop défiants en eux-mêmes, jusqu'à la pusillanimité. D'autres sont trop confiants en eux. Le colérique bilieux est plutôt trop confiant en lui, par exemple. Donc, défiance de soi. Défiance. Mais surtout, grande confiance en Dieu. Alors, défiance de soi, voyez, il dit, même si vous avez reçu des années de vie vertueuse, si vous avez accompli des actes héroïques, si vous connaissez toutes les Écritures, si vous avez déjà remporté beaucoup de victoires sur vous-même, convainquez-vous toujours de votre néant, demandez toujours ce grand don de la défiance de Dieu qui n'est autre en fait qu'une humilité toujours plus parfaite. Habituez-vous à agir avec des sentiments de défiance un peu de vous-même, pas excessive. Rentrez souvent en vous-même après chaque faute, sans vous décourager et en la rapportant à Dieu. Et enfin, moyen extrême de Dieu pour enlever ceux qui ont de la présomption, qui sont tentés par la présomption, permettre des chutes. Voilà, permettre des chutes, c'est le dernier moyen que bon Dieu permet, et plus ou moins grave, selon qu'on a plus ou moins d'orgueil, plus ou moins de présomption. Par contre, dans l'autre plateau, la confiance, l'espérance en Dieu, parlons plus souvent, plus longtemps, demain, dans les vertus théologales, Dieu peut tout, Dieu sait tout. Dieu est le bon pasteur qui a, c'est très beau ce qu'il dit là au numéro 6, notre bon pasteur a couru pendant 33 ans derrière ses pauvres brebis égarées. Il les a appelées jusqu'à en perdre la voie. Il a marché par des lieux difficiles et épineux. Il a arrosé de son sang, il a perdu sa vie. Et voici que vous, pauvres petites brebis, vous tournez vers lui, cherchez à obéir à ses commandements, à pratiquer ses vertus, cherchez à lui obéir, à lui faire plaisir. Et vous criez bien haut vers lui et vous le suppliez. Comment voulez-vous qu'il ne se tourne pas vers vous avec des regards plein de vie et de confiance, qu'il ne vous écoute pas, qu'il ne vous charge pas sur ses divines épaules, et qu'il ne fête joyeusement son retour à lui quand vous revenez de vos péchés ou de vos faiblesses. Très beau. Ensuite, il dit, il y a plein de paroles à Sainte Écriture qui nous disent que nous devons avoir une totale confiance dans la miséricorde divine, qui est une miséricorde active, qui est faite pour nous conformer à lui, à sa sainteté. Alors ensuite, il donne beaucoup, beaucoup de sortes d'avis pour la défiance et la confiance. Il appuie vraiment tout son système est là-dessus, charité et confiance, deux vertus théologales. Ensuite, donc, ils nous mettent la nécessité du combat que je viens de vous expliquer. Et ils donnent les quatre moyens, défiance de soi, confiance en Dieu, s'exercer à la lutte. Alors, d'une part, la lutte, bien quand Dieu nous la fournit par les tentations, moyen d'être fidèle à Dieu, et il n'y aura pas de tentation qui sera au-dessus de nos forces, Dieu nous donne, avec la tentation qu'il permet, il ne faut pas aller les chercher non plus, hein, courir après, c'est entendu. Et d'ailleurs, elles viennent bien assez toutes seules sans qu'on court après elles. Et s'il n'y a pas la tentation, nous entraîner habituellement à l'effort. À l'effort. L'effort. Saint Thérèse d'Enfant Jésus dit on n'est pas obligé de faire toujours des pénitences extraordinaires, loin de là. Mais parce que nous adhérons au bien, nous sommes toujours en état de renoncement. Car adhérer à Dieu, c'est toujours renoncer à quelque chose qui n'est pas Dieu ou qui est contre Dieu. Et le dernier moyen, il dit qu'il résume tout le reste et qu'il permet d'obtenir les trois premiers, à savoir se défier, se confier et puis bien exercer vos facultés. Bien prier et communier, apprendre à prier et à communier. Il dit communion parce que ça contient la source et le moyen de tout. C'est le combattant, le chef des combattants qui vient combattre en nous. Voilà. Donc voilà un peu le cadre. Alors de quel côté, souvent donc dans ce qu'on fait surtout aux exercices de Saint Ignace, cherchent un peu leur défaut dominant. La grande question du défaut dominant. C'est vrai que nous avons... Par notre tempérament, eh bien, nous sommes enclins voilà, à plutôt tel genre de faute. Je vous ai dit tout à l'heure d'après le tempérament. Mais même si vous ne connaissez pas votre défaut dominant, dites-vous bien que tous les défauts se tiennent. Et donc, si vous en travaillez un peu sérieusement, eh bien, vous rencontrerez le gros moi qui est là, qui résiste. Je vais vous laisser des feuilles là, que vous pourrez consulter, qui pourront servir même d'examen. Si on n'avait pas assez, j'en ferai photocopier d'autres au besoin, parce que vous êtes quand même pas mal nombreuses. Oui, c'est peut-être un peu juste. Sur les sept péchés capitaux, d'après Saint Grégoire le Grand et Saint Thomas d'Aquin. Je vais garder un exemplaire, sans pouvoir, je crois que je n'ai pas tout à fait le nombre qu'il faudrait. Où il montre le péché capital, les filles de chaque péché capital, et puis une petite explication. Alors, les péchés les plus courants. Bon, évidemment, la grosse racine, c'est l'orgueil, ou la vaine-gloire. Une passion qui nous pousse à nous surestimer et à rechercher de manière exagérée la gloire. Une certaine gloire. Ça, c'est... Alors, en principe, l'orgueil, il y a deux... Souvent, il y a des personnes qui se glorifient plus en elles-mêmes ou plus par rapport aux autres. On a besoin un peu de recevoir des coups d'encensoir des autres. Des fois, c'est un peu mêlé. Il y a un peu les deux. Bon, évidemment, il y en a un petit peu partout. Alors, le grand moyen de lutter contre l'orgueil, c'est d'abord le regard sur Dieu. Et une grande chose... qui est utile pour le combat spirituel, par laquelle il faudrait commencer et notre prière et notre activité, cultiver en nous le sens de l'action de grâce. C'est-à-dire commencer vos prières, commencer même vos examens de conscience, par remercier Dieu des bienfaits généraux et des bienfaits particuliers. Il y a des bienfaits au cours d'une retraite, c'est bon de repenser dans votre vie, pas de penser à vos péchés, il faut penser à ces péchés si vous confessez demain, très bien, d'accord, autant que, pas plus que, mais pensez aussi à des moments où vous avez été visité par le bon Dieu, pour vous encourager, pour expérimenter, re-expérimenter, vous rappeler l'amour de Dieu. Alors c'est une occasion, une tentation, vous avez été préservée, une grâce spéciale reçue dans votre vie, un secours, une lumière. Il faut penser à ce genre. D'abord, bien remercier, même tout simplement, être catholique aujourd'hui. Ce n'est pas une petite chose. Combien de chances, un jour, on avait un vieux père... Moi, ma première grâce, c'est d'être né Auvergnat. Bon, tel ou tel pays, telle ou telle famille, telle ou telle éducation. Ah, pas pour se battre la coulpe seulement, j'ai été ingrat, mais dire, mon Dieu, quand même, c'était bien bon. Hein. Quelle était ceux qui aiment les calculs de probabilité, quelle était la probabilité pour que je naisse français, catholique, que je rencontre la tradition? Et que de chance j'aurais pu être à côté autrement, une autre façon, ou encore plus si je me suis converti. Bon, à gratitude, il y a d'autres choses. Ça peut être dans une famille, ça peut être, bon, je ne sais pas, rencontre de telle ou telle personne, que sais-je. Voilà. des grâces de fond, y repenser et peut-être même en faire le jour anniversaire. Qui de vous fête bien son baptême, sa première communion ou sa communion solennelle, sa confirmation, les anniversaires de mariage pour les familles, etc. Voilà. Il faut fêter ces choses-là parce que le souvenir d'une grâce est encore une grâce. Nous habituer à voir les biens descendre de Dieu sur nous. Voilà. Nous habituer aussi, bon, pour l'orgueil qui va nous porter à nous croire meilleurs, à voir toujours avec soi sa petite boîte noire. Deux, trois péchés bien saignants de notre vie, et lorsque nous avons envie de nous élever contre les autres ou de les juger un peu durement, la baudruche, il fait ça, elle a fait ça, il a fait ça, tatati, tatata. Bon, et toi, on ouvre. Ah bah oui, bon, il faut que je m'occupe de mes affaires un peu. Et j'ai déjà fort à faire avec mes passions, mes péchés, sans que j'aille m'occuper trop de ce que les autres font mal. D'ailleurs, c'est le moyen que donne le combat spirituel. Quand vous avez attardé un peu trop aux défauts des autres, d'abord, vous pouvez être sûr que vous avez probablement vos 6 défauts. Et si vous ne l'avez pas, vous en avez bien d'autres. Mais aussi, on a tous, puisqu'on a les 7 péchés capitaux, on a tous les racines des défauts des autres. Ah oui, moi, pas de cette façon. Oh, jamais. Oui. Vous avez sûrement autre chose. Et puis, celui-là aussi, vous l'avez. De façon. Bon. Et puis, des fois, c'est encore plus énervant de le voir dans les autres. Bon. Voilà, parce que des fois, on sent qu'on a un petit peut-être de pouvoir sur soi et qu'on n'en a pas toujours sur les défauts des autres. Et ça nous agace. Bon. Donc, dans l'orgueil, tendance à certains, ça va être la vantardise. D'autres, ça va être étonné, impressionner la galerie. Bon. Forme féminine, ça peut être la vanité du cœur, parfois. Être fier de ses bons sentiments. Simuler la possession de certaines qualités. Le look, me disent aujourd'hui. Bon. Un peu entêté, l'opiniâtreté d'esprit, l'esprit de contradiction, la susceptibilité. Bon. Les paroles dures. Bon. Voilà, bon, un peu tout ça. Et pour bien déraciner un vice, il faut regarder la vertu opposée. Ce que faisait saint François de Sales, qui était très très colérique. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Et je pense que c'est un bon moyen, surtout si vous priez, si vous aimez notre Seigneur. Donc, quand il s'était pris une bonne colère, la bien noire, bien. Alors, sujet d'oraison, le prochain sujet d'oraison, ma colère. Alors, comment je vais faire? Je regarde Jésus dans des scènes où il est doux, où il est bon. Il fallait quand même les supporter, les apôtres, hein, et Judas, entre autres. Et Pierre, qui comprend rien du tout. Sûrement que tu. Non, tu mourras pas. Va derrière moi, va dire rétro, Satanas. Tu n'as pas les pensées de Dieu. Et quand est-ce que viendra le royaume? Même après la résurrection, hein. Pff, ils sont lourds. Hein. Bon. Alors, donc, ils apparaissent notre Seigneur dans sa douceur, dans des actes. Où ils... Et la Sainte Vierge, c'est plus facile peut-être pour vous, Sainte Vierge. Bon, quand il était bien pénétré de son sujet, comme un peintre qui regarde son tableau, s'en pénètre, ou un artiste, colère, viens par là. Douceur de Jésus-Christ, colère de François de Sales. Oh. Alors, il s'abaissait, il demandait pardon et il demandait la douceur. Il a fait ça pendant 18-20 ans, à tel point qu'un jour, il a dit, mais comment vous ne mettez pas en colère avec ces ministres protestants, là, surtout celui-là? Ah, dites-vous bien que s'il m'arrachait un œil, je le regarderais avec l'autre encore avec douceur. Bon. Je ne vais pas perdre pour une petite discussion quelque chose que j'ai mis 20 ans à acquérir. Et d'ailleurs, on lui demandait quel était son maître spirituel. Il disait, ah, mon maître spirituel, c'est le livre de Scupoli, qui est sorti. Depuis 20 ans, je pratique ça et je m'en trouve bien. Bon, alors voilà. Et pour chaque vertu, ça peut aller. Ben ça, c'est pratique. C'est positif. C'est notre Seigneur. Ça peut être la sainteté d'un saint aussi, vous voyez. Souvent, nous sommes attirés, l'attirance que nous avons pour les saints, soit par quelqu'un qui nous ressemble et qui a les qualités puissance X dans la sainteté, soit quelqu'un qui n'est pas du tout comme nous, qui est un peu notre complément. Des doux, ils vont aimer les âmes ardentes, fortes, héroïques. Ah, bon. Peu importe, prenez le saint ou les saintes qui vous aident, qui vous poussent un peu, qui représentent pour vous un bon idéal de sainteté. Bien, ensuite, l'envie. Comment lutter contre l'envie? Eh bien, d'abord, je vous disais l'action de grâce. Remercier Dieu du bien et ne pas se réjouir du mal des autres. Que L'envie, c'est la tristesse à l'occasion du bien d'autrui, parce que ce bien est perçu comme une diminution de notre propre excellence. Ce qu'a l'autre, moi, je ne l'ai pas. Bon. Alors, on chuchote, on médit, on se réjouit du mal d'autrui, c'est bien fait pour sa pomme, c'est bien fait pour lui. Tristesse de son bien, bien matériel, parfois bien spirituel. Ah, pourquoi elle ou lui est plus vertueux, plus vertueuse? Et souhaiter du le pire, c'est souhaiter du mal au prochain. Ça, c'est le péché du démon. Envie. Comment on lutte contre cette envie? Apprendre à se réjouir du bien en Dieu, du bien dans les autres, du bien en nous. Donc, voyez, toujours cette contemplation du bien. Généralement, les personnes sont généreuses et actives, ont moins cette tentation. En principe, c'est qu'ils sont généreux, qui donnent assez. Alors, on peut trouver quelqu'un qui est plus généreux que nous, elle peut donner occasion d'envie. Mais enfin, bon. On n'est pas tous sentés du même côté, hein, même point et dans les mêmes périodes. Bon, la colère, c'est assez courant, ça. Alors, la colère, comment devenir doux? Ben, commençons à être doux avec les choses. Par exemple, les exercices, ils disent de fermer les portes doucement, de ne pas monter les portes 4 à 4, les escaliers 4 à 4, de ne pas fermer la porte brusquement, bon, être doux avec les choses. Ah, ça, c'est pas bien placé. Bon. Adoucir. Colère, orgueil. Fille, ça va un peu ensemble. Et là encore, vous voyez, pour ces combats que nous avons contre les différentes passions, toujours les plonger dans l'horizon total. Je veux dire par là, voyez-vous, bon, souvent, si vous attardez, il y en a, ils sont désespérés devant ce défaut dominant qui n'arrive pas à conduire, mais ils ne vivent pas ce défaut assez comme Dieu le voit, si vous voulez. Hein. Ils voient leur truc, là, que c'est un mal pour eux, peut-être un mal pour les autres, que ça leur cause des ennuis, mais ils ne voient pas assez que ça doit être vécu dans l'espérance, dans l'amour, dans la contrition, et que parfois le bon Dieu ne laisse pas progresser sur des vertus morales, mais parce qu'il veut nous voir grandir dans la foi, dans l'espérance, et il veut qu'on compte sur lui. Alors peut-être il va donner l'impression que vous ne progressez pas, ça fait des années que vous travaillez ce truc-là, et toujours vous faites les mêmes plis, là, mais vous avez mis beaucoup de persévérance, beaucoup d'amour, beaucoup de... Et puis souvent même aussi, ceux qui ont des défauts, ils n'arrivent pas de tel côté, alors ils essaient un peu de faire mieux ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier qu'on faut travailler ça. Là aussi, on peut des fois un peu se tromper. Bon, quelque chose qui est particulièrement pernicieux, comme il y a peu de temps, je voudrais vous parler de ce qu'on a appelé, il y avait un très bon article, je crois, c'est l'année dernière, dans le sel de la terre, où il y a deux, non, il y a un an, je pense, sur l'acédie, la paresse spirituelle. Ah, ça, c'est la mort. Ah, quand on a ça, et les moines sont souvent attaqués de ce côté-là, hein. Pas envie de prier, pas envie de progresser, pas envie. Ça vient comme ça, c'est pas toujours volontaire, hein, loin de là. Ça peut être la suite d'une négligence, d'une ingratitude, que sais-je. Méfiez de ça. Alors, que faire avec l'appareil spirituel? Continuez de prier dans la sécheresse, une prière dans la sécheresse, dans la désolation, vaut plus que 1000 invocations dans les temps de consolation. La joie et le plaisir de ne rien faire pour le paresseux. Mais la paresse spirituelle, c'est plus fin que ça. On a peur, on craint le bien spirituel, on craint l'effort, on craint le sacrifice. On renonce à la fin spirituelle, aux fins spirituelles, à la perfection spirituelle. Cela nous rend triste. En plus, ça rend triste. Ça, c'est un des ressorts qu'utilise le plus. Le démon, il aime bien la tristesse parce que ça casse les ressorts, ça casse l'âme. Jamais céder à ça. Au moins volontairement. Car l'essentiel de notre vie spirituelle, l'essentiel de notre combat, c'est notre volonté. Vous connaissez cette bénédictine qui était à la mort et puis on entendait rugir autour d'elle et son saint confesseur a vu que c'était le démon qui... Et qu'est-ce qu'il marmonnait? Ah, il cherchait à entrer en elle par la tentation, par le désespoir. Ah, je peux rien contre cette chienne de bonne volonté. Bonne volonté. Cultiver la bonne volonté, en tout temps. Faire feu de tout bois pour cultiver la bonne volonté. Heureusement, cette paresse spirituelle déclenche en nous des élans de pusillanimité. Ah, tout devient trop difficile. Hein? Les trous de taupe deviennent des montagnes. Cela engendre aussi, voyez-vous, la rancœur, la rancune. Quand il y a la rancœur, la rancune, c'est qu'on a un petit problème dans la vie spirituelle. Hein? Souvent, les gens qui voient trop les fautes des autres, c'est qu'il n'y a pas assez de travail spirituel en eux. Et puis, ben, on se laisse aller au bien facile, quoi. Bon, le sanguin, il roule dans les biens sensibles pour... comme il est triste, alors il cherche à compenser sa tristesse par les biens sensibles. Alors, plus en généralement, il faut augmenter un peu la prière, les sacrements, faire un petit peu de pénitence adaptée à Notre-Dame. Mais alors, c'est plus difficile parce qu'on n'a vraiment rien en nous qui a envie de faire, quoi. Faut, comme disait Monseigneur Sœur, il faut se donner des coups de pied au derrière, quoi. Et des fois, il faut que les autres nous en donnent. En profiter à ce moment-là. Si on n'est pas capable, laissons les autres nous en donner. Bon, un point qui est assez important chez la femme, notamment. Vous avez tendance, chères mesdames, dans le mauvais côté de votre être, à être rancunière. Ça, c'est un défaut très... Je ne dis pas que les hommes n'ont pas de rancune, hein, ils en ont aussi. Mais la femme, comme elle a une grande sensibilité, quand cette sensibilité est blessée, alors la rancune, l'amertume, ça c'est une peste. Ou je ne lui pardonnerai pas, ou je pardonne mais j'oublie pas. La vengeance est un plat qui se mange froid, coagulé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, bien distinguer deux choses. Vous voyez, vous pouvez très bien, je des âmes comme ça, elles ont pardonné avec leur volonté, avec leur cœur, elles ne voudraient pas de mal cette personne qui leur a fait effectivement du mal, qui est tout à fait réel. Mais voilà, dès qu'elles y pensent, l'émotion qui monte. Ah, je ne peux pas lui sourire à celui-là ou à celle-là. Bah, bon. Et puis si je la vois, je prends l'oblique. Oh, à la sortie de la messe. Et je ne l'ai pas vue. Ah, il paraît, c'est monsieur, prof de philo qui nous disait... La femme a un air consommé de faire celle qui n'a pas vu, quand elle ne veut pas voir. C'est assez amusant. Oh, je dis ça, j'ai remarqué, effectivement. Les hommes aussi ont un peu ça. Il y en a, les moines, ça les bloque, je vois, dans les trains, ou etc. Alors, il y en a, bon, il y en a, ils regardent, mais faut pas donner l'impression qu'ils voient, donc ils regardent un peu curiosité, sans donner l'impression qu'ils regardent. Puis vous en a, il y en a, vous n'existez pas. Que passé, pas vu. Bon. C'est des moments où, sans doute, je n'ai pas beaucoup le recueillement des yeux, je reconnais. Bon, mais enfin, on voit, c'est assez amusant. C'est, bon, ça peut être un bon passe-temps, si vous avez... Bon, en général, ils sont tous plongés dans leur vidéo, leur CD, leur truc, bon, dans leur petit univers virtuel. Mais enfin, il y en a quelques-uns qui l'aient un peu le nez. Bon. Qu'est-ce que c'est, ce martien, là? Bon. Alors, non, mais donc... bon, alors, attention, rancune, bien distinguer ce qu'il y a dans votre sensibilité, qui peut être là, vous voyez, c'est sûr, hein. Et puis, ce qu'il y a dans votre volonté. Alors, le premier moyen pour les rancunes, les pardons qu'on a du mal à donner, on commence par poser la chose devant Dieu, prier l'ange gardien de la personne, et on commence à prier pour la personne. Très important. Et surtout, c'est la médisance, la langue de la femme, c'est important. Bon, les hommes, ce sont les langues. Hein. Bon, prédicateurs, ce sont les langues. Il va falloir s'arrêter. Bon. On commence à prier. Quand la langue intérieure est habituée à prier pour une personne, on a moins envie de médire et de cracher du venin. On commence par faire ça. Et puis même si ça échappe, on dit comment ? J'ai tant prié pour cette personne, il faut encore que j'ajoute du venin sur elle. Non, fais attention. On prie. Et puis on pense justement à ce pardon, à ces pardons qu'a donné le Seigneur. Est-ce que nos pardons sont plus difficiles que ce qu'a eu ? Est-ce que nous avons des choses à souffrir plus difficiles que notre Seigneur sur la croix ou dans ce qu'il a eu à souffrir ? Ben non, quand on met en comparaison, on trouve ça même un peu ridicule. Alors on apporte ça, et ça calme les passions. Et le bon Dieu va arrondir les choses, peu à peu. Mais très important ça, parce que ça, ça peut perdre votre vie spirituelle. C'est quelque chose qui peut vraiment scier à la racine de votre vie spirituelle. Si on garde une amertume, si on garde une rancœur, si on garde un... Ça devient une herbe amère qui va tuer votre vie spirituelle. Attention à ça. C'est pas ça, profiter d'une retraite pour mettre au point ça, même si vous... Je vous dis, il peut y avoir encore votre émotion, votre sens, mais ça, c'est autre chose. Ce que vous voulez avec votre volonté, vous souhaitez que cette personne, elle aille au ciel, qu'elle se convertisse, si elle a besoin de conversion, etc. Il resterait l'avarice, la gourmandise, et bien ça, bon, vous avez les carêmes pour ça, la quantité, la qualité. L'impureté. Alors, en général, on ne parle pas à la même chose, bien sûr, aux dames, aux messieurs. Alors là, eh bien, je dirais, pour une femme, ça devrait être assez simple. Je m'explique. Vous êtes des êtres qui sont plus spécialement consacrés à aimer. Voilà. La femme, ce qu'elle a tout à fait fait, est un pouvoir d'amour que n'a pas l'homme. L'homme, souvent, on dit l'homme va de la tête au cœur et la femme a du cœur à la tête. C'est assez vrai. Alors, aimez Dieu, aimez le prochain, donnez-vous, priez. et l'impureté vous laissera tranquille. Mettez vos amours là où il faut, et pas dans les vanités, et les bêtises, et la coquetterie, et que sais-je. Et l'impureté vous sera tranquille. Voilà, c'est tout simple. La virginité de votre cœur empêchera l'impureté d'approcher de vous. Là où il y a les bonnes amours, il n'y a pas les mauvaises. Parce que la nature a horreur du vide. Quand la nature est remplie là où il faut, comme il faut, il n'y a pas de problème. Donc, bien ça. Et puis, évidemment, regardez. On parlera peut-être sur la vocation de la femme. Regardez Notre-Dame. Notre-Dame. Le patron du combat spirituel, c'est notre Seigneur au désert. Ce sont les saints qui ont combattu dans les tentations, comme ils ont fait. Et cette année, vous savez qu'on fête le 706, ça fait 13e ou 14e, l'apparition du mont de Saint-Michel-Archange au mont Saint-Michel. Alors, il faut prier Saint-Michel-Archange. C'est vraiment... Les anges, surtout dans nos tentations, dans nos combats, pour nous donner de la générosité, sont très puissants. Leur nom exprime une grande puissance. Et Saint-Michel, qui est comme Dieu? Et c'est ce que nous devons dire, nos tentations. Qui est comme Dieu? Qui peut comme Dieu me délivrer de la tentation? Qui peut comme Dieu combattre en moi? Donc, bonne dévotion à Saint-Michel-Archange. À Saint-Gabriel, la force de Dieu. Voilà. Les anges sont là, sont nos amis. Padre Pio, il appelait les anges les jumeaux, ton ange, ton jumeau spirituel. C'est beau, comme il y a quelque chose de très profond là-dedans. Nous verrons, c'est elle qui a une certaine connivence, une certaine ressemblance de notre ange avec notre âme spirituelle, qui est particulière à nous. Donc l'ange, puis Saint Raphaël, médecine de Dieu, qui guérit comme Dieu? Qui guérit comme Dieu? Nos péchés, nos maladies, qui guérit comme Dieu? Saint Raphaël nous rappelle ça, l'ange de la bonté, l'ange qui guide dans les chemins difficiles de la vie. Faisons ça. Vous pourrez lire, bien sûr, des extraits du combat spirituel. Vous pouvez lire aussi les 12 degrés de l'humilité. Il y a beaucoup de choses. Les instruments de la perfection de Don Montléon. Très bonne chose sur le combat spirituel. Et puis, bien sûr, demander les dons du Saint-Esprit. C'est seulement le don de force. Nous parlerons demain.